Et que Nahi Dunia, Moumkina. En français, c'est à l'autre mot possible.
Pour rebondir sur l'émission de Daniel, sur les émissions là, sur l'Inde, dans l'anti-manuel d'économie, l'excellent bouquin de Bernard Maris, qu'est-ce qu'on apprend ? Page 299. Le principe d'un marché de la pollution a des conséquences terribles sur la localisation des activités polluantes. Laurence Sommer a été membre du staff de la Banque mondiale et chef des conseillers économiques du président Clinton avant de devenir président de l'université de Harvard. Ça a fait un sacré curriculum. En 1991, cet érudit écrit ceci. Les pays sous-développés d'Afrique sont largement sous-pollués. La qualité de l'air y est d'un niveau inutilement élevé par rapport à Los Angeles. Il faut encourager une migration plus importante des industries polluantes vers les pays les moins avancés et se préoccuper davantage d'un facteur aggravant, les risques d'un cancer de la prostate dans un pays où les gens vivent assez vieux pour avoir cette maladie, que dans un autre pays où 200 enfants sur 1000 meurent avant d'avoir l'âge de 5 ans. Je pense que la logique économique qui veut que des masses de déchets toxiques soient déversées là où les salaires sont les plus faibles est imparable. Imparable. Que vaut la vie humaine ? Oh.
Oui, bonjour. Mon problème s'appelle le chômage. J'en souffre. Qui peut comprendre le chômage ? Je ne crois pas que celui qui travaille le comprenne. La chômeuse que je suis est entourée de travailleurs. Je me dis qu'ils ont la chance et que je n'ai pas de bol. J'ai fait des études. J'aurais mieux fait d'apprendre un métier. Le chômeur, il crève tout seul. Il rabâche son problème. Il devient fou de ne pas être comme les autres, de ne pas trouver un boulot. C'est terrible, je vis ça. Je voudrais expliquer à quel point c'est difficile de se retrouver sans emploi. Je vois les dégâts que cela cause sur le physique et le mental. Je veux dire, c'est grave, très grave.
Salut, c'est Guy de Rieux-la-Pape. Daniel, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs de la région lyonnaise, et plus précisément des Lyonnais, et plus encore des Croix-Roussiens, pour les informer qu'actuellement, à la bibliothèque du 4e arrondissement située rue de Cuire, se tient justement une très belle expo de photos originales traitant justement du sujet actuel de là-bas où j'y suis, à savoir Bhopal. À bon entendeur, et félicitations à toute l'équipe.
Vous avez compris, on continue, on est en Inde, alors on n'est pas à Bombay contrairement à ce forum social mondial qui a ouvert aujourd'hui. Nous, on va dans le Gujarat, c'est un état à l'est de l'Inde, le plus à l'est d'ailleurs, pas loin du Pakistan qui jouxte le Pakistan. Et là, on va se pencher sur la condition des paysans qui, des travailleurs, des exploitations de coton, parce qu'il y a un miracle, vous savez, vous avez vu vos journaux aujourd'hui qui vous disent qu'il y a un miracle économique en Inde. On ne savait pas, mais il y a un miracle économique en Inde. On va voir comment ça se passe concrètement dans les champs de coton, par exemple, avec ces travailleurs. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. Vous connaissez le numéro par cœur, mais je le dis quand même. 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, j'étais bien content d'entendre un pompier de Paris pour appeler à la manifestation organisée à Paris le 17 janvier, c'est-à-dire ce samedi. Et je peux te dire, nous on est ici dans le Cantal et du trou du cul du monde on y monte à Paris. On monte à Paris, on fait un quart, on monte avec nos potes du Lot, avec nos potes de l'Aveyron parce que... Et oui, nous aussi on a été concernés par ces histoires là, dans le trou du cul du monde. Les déchets nucléaires, hein? Ah, les déchets. Qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces déchets? Parce que cette manif, nous, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'abandon de tout projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et on aimerait bien un peu qu'on remplace tout ça par des programmes d'économie d'énergie, hein? Et aussi développer les énergies renouvelables. Et puis tiens, si on pouvait vraiment avoir un véritable débat sur les choix énergétiques, plutôt que cette espèce de débat bidon qu'on a vu au début de l'année. Alors on va y aller à Paris, on y sera, puis j'espère que les Parigots, ils vont venir défiler avec nous, parce que le nucléaire, et Nogent-sur-Seine, c'est pas si loin, et si ça vous pétait à la gueule un jour, hein. Alors nous, on n'en veut plus, il y en a ras-le-bol de ces histoires. Allez, salut Daniel.
Quand la France va mal, on parle des petits diplômes, des petits salaires, des petits épargnants, des petites retraites, des petites espérances. Quand la France va mal, on parle des chômeurs en fin de droit, des pré-retraites, des temps partiels, des demi-espérances. Quand la France va mal, on parle du moral en baisse, de la solitude des personnes âgées, de la souffrance des laissés pour compte, des fausses espérances. Quand la France va mal, on parle des réformes à venir, des débats en cours, de piètres espérances. Quand la France va mal, on parle beaucoup. Mais quand la France va mal, on oublie de parler des grands diplômés, des bacs plus, des cerveaux. Quand la France va mal, on oublie de parler de ces jeunes qui sortent avec des bagages universitaires bourrés de motivation, d'espérance et de créativité. Quand la France va mal, on oublie de citer ces jeunes au CV bien garnis qui cherchent du boulot pendant plus d'un an et demi après 6 à 7 ans d'études. Quand la France va mal, on oublie de parler du désarroi de ces jeunes diplômés surmotivés qui ne demandent qu'à travailler. Quand la France va mal, on oublie de donner une chance à ces jeunes diplômés. Quand la France va mal, on oublie que c'est souvent sur eux que repose le dynamisme et la compétitivité du pays. Quand la France va mal, on finit par se demander à quoi sert d'être diplômé. Quand la France va mal, la France détruit en elle-même la source de sa guérison. Bien à vous, jeunes diplômés en recherche d'emploi.
1 200 000 morts, famine, torture, camp de travail, avortement forcé jusqu'à 8 mois de grossesse, stérilisation des femmes sans anesthésie. Plus de 100 000 exilés sur le sol indien. Le Tibet est condamné à disparaître. La répression chinoise s'est considérablement durcie ces 5 dernières années. Les jours sont comptés pour ce peuple oublié du reste du monde. Ce soir, vendredi 16 janvier, salle Louis Coste à Limoux dans l'Aude, 20h30, projection du documentaire « Tibet, histoire d'une tragédie » suivie d'un débat. Soirée organisée par Rencontre Tibétaine, le Lac du Lotus, deux associations militantes pour la cause tibétaine. L'entrée est gratuite, la vente d'artisanat tibétain financera l'ouverture d'une école en langue tibétaine à Rewalsar dans le nord de l'Inde, ainsi que d'autres projets humanitaires pour les réfugiés.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil, là-bas si j'y suis, en Inde. Barbujeta, il s'appelle ce monsieur rigolard et charmant. Et il vit autour de ce village de Saring. C'est pas loin de Baroda, c'est dans le Gujarat qu'on se trouve aujourd'hui. Et voilà, en grignotant la canne à sucre, on va travailler dans les champs de coton. Barbujeta fait partie des 700 millions d'Indiens qui vivent en zone rurale avec un revenu moyen d'environ 1 dollar par jour, à peu près 1 euro par jour. Aujourd'hui, le Forum mondial social s'est ouvert à Mumbai, ex-Bombay. Charmante cité de contraste. Alors là, on peut parler de contraste. Environ 22 millions d'habitants, on n'est pas à quelques millions près, dont le plus grand bidonville du monde qui fait 8 millions d'habitants dans ce très très grand bidonville. Et ils sont bien chanceux, ces 8 millions dans les bidonvilles, par rapport aux millions, 1 million de gens qui dorment dans les rues la nuit, sur les gravats, absolument n'importe où, sur les trottoirs. N'importe où, pas tout à fait n'importe où, parce qu'il y a des quartiers très chics, très propres et bien gardés dans cette ville de Bombay. Si on va de ce côté-là, évidemment, on voit le miracle indien. Oh, extraordinaire, les chiffres, l'économie indienne qui monte, qui grimpe. Et c'est la mondialisation heureuse. Certains de vos journaux aujourd'hui découvrent la mondialisation heureuse en Inde. Évidemment, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pour 1% de la population, c'est très très heureux. Pour 10%, c'est pas mal du tout. C'est 10% qui se partagent, je le rappelle, 70% des richesses du pays. Disons, allez, pour 20% de la population, ça va, ça marche, et cette mondialisation va garantir indéniablement une amélioration de la vie. Mais il en reste quand même pas mal. Il en reste quand même pas mal qui sont derrière, qui sont à la remorque, qui sont menacés. Non pas que la mondialisation, ce soit brusquement le capitalisme qui soit arrivé en Inde. Ça fait longtemps que la situation est dur et difficile, notamment en matière d'inégalité dans ce sous-continent indien. Mais pour les uns, ça va s'aggraver. Pour les autres, ça va de mieux en mieux. Et je vais vous faire une petite démonstration. Les uns vous disent... Je vais vous montrer comment on peut instrumentaliser les chiffres. C'est très simple. On vous dit la pauvreté a baissé de 20% en Inde en 20 ans. Ah, très bien, bonne nouvelle. Oui, en effet, il y a 20 ans, la pauvreté représentait 55% de la population. C'est-à-dire que les gens vivant en dessous du seuil de pauvreté étaient 55% en Inde. Aujourd'hui, selon des chiffres, toujours discutables, mais enfin prenons-les puisqu'on nous les avance, c'est 35%. À la fin des années 90, c'est 35%. Donc, vous voyez, il y a une réduction importante de la pauvreté en Inde. Très bien. Un autre argument. La pauvreté n'a pas du tout baissé en Inde. Ah bon ? Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, en pourcentage, certes, mais en valeur absolue, non. Il y a 20 ans, il y avait 350 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en Inde, et la population s'étant développée, on est à plus d'un milliard, 1,40 milliard d'habitants aujourd'hui, eh bien, il y a toujours 350 millions de pauvres en Inde, de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Voilà deux raisonnements, en jouant sur les chiffres, le pourcentage ou la valeur absolue, qui permet de dire des choses tout à fait différentes et qui permet, dans certains de vos journaux, dire pour l'Inde, la mondialisation est une aubaine. Ça, c'est une façon de voir les choses. Ou une autre façon de voir les choses, c'est cette photo qui est à la une du quotidien L'Humanité et qui représente une image que tous ceux qui sont allés en Inde et à Bombay, comme à Mumbai, comme ailleurs, connaissent bien. C'est celle de la petite main qui frappe à la fenêtre de votre voiture ou de votre taxi. Une petite main brune. Parfois, vous voyez même pas à qui elle appartient, cette main, parce que c'est souvent la main d'un gosse. C'est la main d'un mendiant. Ils sont 1% de la population en Inde, ces mendiants. Alors, vous allez vous essayer de tenir le coup en vous disant oh, « oh, ils sont organisés, c'est des bandes, c'est des mafias, etc. » N'empêche, il est terrible, ce bruit de la petite main brune qui frappe à la fenêtre de votre taxi.
Caiu eu com o labor.
Bonjour.
Kento.
Kento. C'est difficile de venir jusqu'à vous. Là, on a traversé tout ce morceau de champs de coton. On est au milieu des champs de coton. On voit toutes les fleurs blanches de coton que vous êtes en train de cueillir. Et vous les mettez là-dedans, dans cette toile que vous avez accrochée autour du corps, là. Hein? Puis vous avez les bras tout griffés, regarde, ça, c'est vraiment un boulot. Alors là, on se demandait qui travaillait. Bon, on a compris, maintenant, c'est les femmes. Comment vous vous appelez ?
Gita.
Et vous ?
Madou.
Madou et Gita, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment dans les champs ?
Papa,
c'est
l'année.
Ramassons le coton.
Ah, hein. À quelle heure vous avez commencé aujourd'hui ?
Ça va.
Ah, mais lui, il travaille aussi, il y a un monsieur qui travaille aussi. À 9h du matin. Et vous allez travailler jusqu'à quelle heure ?
6h du soir.
9h du matin, 6h du soir. Vous vous arrêtez pour manger ?
Non. 5-10
minutes.
Qu'est-ce que vous avez à manger ? Où est-ce que vous mangez ?
Ici, dans le champ.
Vous avez apporté votre manger ?
Oui.
Et vous avez combien ? Vous gagnez combien par jour ?
10 rupias.
20 roupies.
20 roupies.
Tous, le monsieur aussi.
Tout le monde est payé 20 roupies.
20 roupies. Alors là, ça fait 2 francs 50 à peu près. 2 francs 50 de 9h à 18h. Avec un arrêt de 10 minutes. Et vous êtes combien à travailler comme ça ?
4.
Hein ?
4.
Vous êtes 4 à faire tout ça. Voilà, le miracle économique indien n'est pas arrivé encore jusque-là dans cette région du Gujarat. 2 francs 50 par jour à peu près pour ces travailleurs. C'est pas facile du tout, hein. Là, nous, on arrive comme ça, mais c'est un milieu qui est quand même très très difficile. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire de nous retrouver dans un champ de coton ? Eh bien, c'est les OGM. Évidemment, pour les multinationales de l'agrochimie, l'Inde représente un marché absolument formidable. Je le disais, on l'a répété, vous le savez, l'Inde est une économie essentiellement rurale. On va tout de suite sur l'informatique, sur les hautes technologies. C'est vrai, il y a un essor extraordinaire en Inde, ça nous surprend beaucoup. Il y a une industrie qui est déjà un peu plus en difficulté, mais l'essentiel de l'activité de ce pays, c'est l'agriculture. C'est donc un marché absolument formidable, et qui dit agriculture dit, semences, herbicides, pesticides, et ça intéresse les grandes multinationales telles Monsanto, mais d'autres aussi, en matière d'OGM. Or là où nous nous trouvons, dans ce champ où nous nous trouvons, eh bien ce coton charmant, est transgénique. C'est du coton transgénique. Alors vous êtes quoi ? Vous êtes des Dalits ou vous venez des tribus ?
Adivasi.
Des tribus.
Ah, vous êtes des tribus. Est-ce que vous avez des terres ?
Non.
Là,
Mazuri Karwane, Keti Beti Kainai.
Je n'ai pas de terre, je travaille dans les champs de quelqu'un d'autre.
Et les Dalits, ils ont un peu de terre ?
Et là, ouais, thodo hoy. Bouna hoy.
Un petit morceau de terre.
Et bada mazurit karit pade. Zamin hoy, par aussi hoy.
Ils ont tous ces petits morceaux de terre, donc ils doivent tous travailler dans les champs.
Oui, mais alors que les tribus, ils n'en ont pas.
Non.
Et vous travaillez toute l'année ?
Ouais, toute l'année.
Ah, vous ramassez le coton toute l'année. Mais ça fait mal aux bras. Ils ont les bras tout rayés.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut manger, donc.
Mais bien sûr, bien sûr. Et vous avez des enfants ?
Trois enfants.
Et vous, la dame là-bas ?
Deux enfants.
Et vous, le papa là ?
Deux enfants.
Et ils vont où ? Ils vont à l'école ?
Maré, kadza ici.
Un enfant va à l'école, le deuxième ne peut pas marcher. Il est handicapé.
Ah.
Snake.
Il y a un serpent. C'est la femme là-bas qui a appelé parce qu'elle avait peur. Il y a un serpent. Il y a beaucoup de serpents là-dedans. Vous êtes mordu des fois par les serpents. Et vous allez travailler jusqu'à la nuit maintenant. Non loin de là, on traite la canne à sucre, et sont effectivement ce qu'on appelle des tribaux, et qui se déplacent à travers le pays, cet immense pays, et qui sont comme on pourrait dire, des travailleurs migrants de l'intérieur qui viennent là parce qu'ils sont moins chers. Ils sont moins chers que les intouchables. Oui, en dessous de l'intouchable, il y a le tribal. Et en dessous du tribal, il y a l'épouse, la femme du tribal. Là, c'est vraiment en dessous du en dessous de tout. Mais il faut bien que ça se fasse, il faut bien manger.
Comment on fait? Alors faites-moi voir comment on fait exactement, comme elle fait là. Voilà, là, elle cueille, elle cueille, à main nue. Voilà. Voilà, ça c'est pour moi?
Ah, oui,
oui.
C'est pour moi.
Les Américains, ils ont volé notre coton.
BT coton.
Qu'est-ce que c'est le BT coton?
Le dessus, j'ai appris à salat tout de suite. Ah, ça, c'est fabriqué.
Ça, c'est pas le coton traditionnel.
Après, j'ai
appris
à capros. Il a appris à banaille. Et nous, mon assain,
les graines sont fabriquées par les hommes, c'est pas traditionnel du tout.
C'est transgénique.
Ouais.
C'est du coton transgénique. C'est-à-dire génétiquement modifié.
Ah, 400 rupees kilo.
400 rupees par kilo.
C'est plus cher que les autres graines traditionnelles?
Ouais, très cher.
Est-ce que ça marche mieux au moins?
Ça coûte plus?
Non.
Alors, ça coûte plus cher qu'avant?
Ouais.
Ça marche moins bien, qu'est-ce qui marche moins bien?
Il y a beaucoup de dépenses.
Il y a beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de dépenses.
Parce qu'il y a des pesticides.
Il y a des pesticides.
Il y a des pesticides.
Il nous montre
ces
points-là qui ont été complètement bouffés par des espèces de parasites. Voilà la chenille. La chenille en question, regarde sur le
Ça
a été génétiquement modifié pour contenir à l'intérieur du coton une toxine qui tue les parasites. Bon, apparemment, c'est pas.
Alors, ça, c'est mieux ou pas, ce petit coton, ces semences fabriquées?
એલે એમાં એવું છે કે પેલા જે જે પહેલા અમે વારાલક્ષ્મીના દેશી વાવતા હતા એની અંદર એવું હતું કે ઓછી ઉપજ મળતી હતી એના પછી અમે અહીંયા આગળ શંકર 6-8 ને અલાયા હવે શંકર 6-8 થાય છે
યાવે મુવાત ક્યુલ્ટિવેશન
શંકર 6-8 આવ્યું ને એના કરતા બીટીની અંદર એવું છે કે ઓછો ખર્ચો અને વધુ ઉત્પાદન
ઇસી યા મુવાત ડેપેન્સ એ પ્લસ ડે ક્યુલ્ટિવેશન
aujourd'hui il y a moins de dépenses et plus de rendement
ઉપજ વધારે
ouais donc le BT coton c'est mieux
પહેલા કરતા સારું છે અમારું છે કામમાં એવું છે કે માનો કે જે ગામના સ્થાનિક મજૂર જે રહ્યા ને એના તો બીટી કોટન હોય શંકર કોટન હોય કે ગમે તે કોટન હોય એના તો મતલબ મજૂરી કરવાની છે
એટલે કે ટ્રાવાઈ સી કે સસવા બીટી ઉ શંકર ઉને પોત કેલ કોતો ઓઇલ દો ટ્રાવાઈ એ દોને શો દમ પુર અ સે પારે
Ce qui est extraordinaire, c'est que regarde la femme qui passe sur la route, tu dirais vraiment la reine de Saba. C'est extraordinaire cette beauté, la grâce de cette femme. Je ne sais pas si elle travaille dans les champs, qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle est splendide. Regarde avec son sari qui flotte derrière elle. Vraiment des merveilles.
Yeah, I am Kapil Shah, working for promotion of organic farming in the state of Gujarat, India.
Je m'appelle Kapil Shah, je travaille pour la promotion de l'agriculture biologique dans l'état du Gujarat en Inde.
Alors vous dites une chose terrible, vous dites que la globalisation va mettre en ruine l'agriculture indienne. Alors c'est une affirmation terrible quand on sait que 70% de la population en Inde travaille dans l'agriculture.
Yeah. Especially globalization is accelerating the process of corporatization and monopolization of local land, water, natural resources.
Oui, d'autant plus que la globalisation augmente le processus de privatisation et de mainmise des grandes multinationales sur la terre, sur l'eau et sur toutes les ressources.
It helps in a very unfair competition between Indian small growers and Western big multinational companies. So they cannot compete in the open market.
Surtout, ça met sur un même niveau, dans une compétition complètement injuste, les petits producteurs indiens et les grandes multinationales occidentales.
Mere nak vich nathni, te tane utte kagri. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਪਾ ਦਿਓ ਡੰਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥਣੀ ਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕਗਰੀ ते मेरे कन्ने पा दियो डंडियां हो बुले शाह हसा यार मनाना ते पावे लोग उड़ावण पंडियां
Kapil Shah, il fait partie de ceux qui en Inde même se préoccupent de cette énorme question qui est l'agriculture et qui est le contrôle de l'agriculture en Inde par les firmes transnationales, c'est-à-dire l'appropriation du naturel par les firmes transnationales. Ça ne veut pas dire que auparavant tout se passait de façon entièrement naturelle en Inde. On va évoquer cette question de la privatisation ou de l'appropriation du processus, notamment au niveau des semences, avec un chercheur de l'INRA, de l'Institut National de la Recherche Agronomique, qui est Jean-Pierre Berland. Mais là, pour l'instant, on est avec Kapil Shah, qui est un observateur engagé. Il n'est pas le seul, hein. Il ne faut pas croire qu'en Inde, voilà, à part ce miracle économique, il n'y a que des pauvres. Non, il y a parmi les pauvres, parmi les gens qui sont pris dans ce miracle économique, à l'état de gens qui sont conscients, il y a des quantités d'associations de toutes sortes qui s'opposent, qui luttent, qui agissent partout à travers ce pays. Et la mission Mission for Organic Farming de Kapil Shah, qui a été fondée en 97 là dans cette bonne ville de Baroda, se préoccupe de ces questions des OGM, et notamment pour ce qui nous intéresse, évidemment, du coton, de l'affaire du coton transgénique.
In India, especially one crop, GM cotton, is legalized, but beyond the legalities, before the GM cotton was legalized, there were illegal widespread cultivation.
Oui, en Inde, il y a une variété d'OGM qui est cultivée, c'est le coton. Mais avant même que ça ait été légalisé, ça fait déjà des années que c'est cultivé de manière clandestine, en tout cas sans avis des autorités indiennes.
Alors aujourd'hui c'est autorisé, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de l'usage de ces OGM dans le coton, du BT coton? Parce que on a vu des paysans tout à l'heure qui travaillaient dans les champs de coton, pour eux c'est tout à fait positif.
In Gujarat, the cotton is grown very widely and 70% of the cotton is GM cotton. Out of 70%, 95% is illegal GM cotton.
70% du coton qui est cultivé au Gujarat, c'est du coton transgénique. Et 95% du coton transgénique utilisé au Gujarat est d'origine illégale.
Illegal cotton, GM cotton seeds are available at cheaper rate.
Parce que c'est des variétés qui sont illégales, donc elles sont vendues moins cher que celles produites par Monsanto.
and today they perform better than legal GM Monsanto's cotton and even the traditional varieties.
Et elle fonctionne effectivement aujourd'hui mieux que le coton génétiquement modifié qui a été créé par la multinationale Monsanto et mieux aussi que le coton traditionnel naturel.
Alors où est le problème?
We don't know what will happen in the future as new technology comes and allows farmers to earn for 3-4 years and then farmers become more and more addicted to the technology and then he goes into a debt trap.
Et le problème, c'est qu'on n'a pas aucune idée des conséquences à long terme que ça va avoir. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que les fermiers sont en train de chaque année d'en utiliser davantage et qu'ils deviennent presque de plus en plus chaque année de plus en plus dépendants de ce coton transgénique.
Another threat is once the farmers will get addicted to the GM technology and after a few years, the single gene technology which is being promoted today by multinationals and private seed companies will come up with a new technology, maybe a double copy of the same gene or different kind of new technologies will come.
Et puis l'autre chose, c'est qu'avec le coton génétiquement modifié, une fois que les paysans se seront vraiment devenus dépendants de cette technologie-là pour pouvoir travailler, on est à peu près sûr, en tout cas rien ne nous dit que les multinationales qui produisent ces semences transgéniques ne vont pas apporter une nouvelle version avec cette fois-ci deux gènes modifiés, puis après encore une nouvelle version, et ce sera la course en avant pour la modification génétique des semences.
Pour produire, que ce soit du coton ou n'importe quoi, le paysan indien a besoin, comme de toute éternité, il a besoin de semences, il a besoin d'eau, et puis plus récemment, il a besoin de pesticides, il a besoin d'herbicides, il a longtemps trouvé des engrais, même si les engrais ont changé de nature, il a besoin aussi d'électricité, il a besoin de tout ça. Et là-dedans, il y a des choses qui coûtent rien. La semence, c'est comme le levain pour faire le pain chaque jour. Il suffit de garder un petit peu de levain de la pâte de la veille, on le met dans la pâte du jour, et hop, ça gonfle, donc il n'y a pas d'argent à se faire sur ce coup-là. Et ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'argent à se faire. C'est bien regrettable qu'il n'y ait pas d'argent à se faire. Aussi, depuis longtemps, pour un chercheur comme Jean-Pierre Berland, depuis le début du 19e siècle, il y a toujours eu des bougres intéressés de détourner cette séquence du processus et pour prendre la semence et la revendre au gars qui l'utilise tout simplement. Avec les OGM, avec ces multinationales, c'est passé à une puissance planétaire. C'est ça la globalisation, c'est ça la mondialisation, et c'est ça qui se passe en Inde. À 7004 kilomètres, on vient de regarder, c'est-à-dire ici, eh bien, Jean-Pierre Berland nous dit quels sont à ses yeux les intérêts et les désintérêts du processus OGM. Alors, les OGM, quels sont les avantages et les risques?
Les avantages, n'en voient aucun.
Vous n'en voyez aucun.
Non, c'est aussi simple que ça.
Mais par exemple, pour l'exemple de ce coton qu'on trouve au Gujarat, ce BT coton ou coton BT, à quoi ça sert?
Ce coton BT, en principe, ça permet de lutter contre des insectes ravageurs du coton. Alors, on est toujours
dans... Ça marche.
Ça marche dans ce cas-là.
Les agriculteurs, en tous les cas, qu'on a vus, je dis, ça marche, on est content.
Ça marche dans un certain
nombre... Ça fait 2-3 ans qu'ils sont lancés dans cette expérience.
Alors, là aussi, aux États-Unis, c'est pareil. Il y a des États où ça a très bien marché. Par exemple, dans l'Arizona, le coton BT a très bien marché. Par contre, les États du sud des États-Unis, comme le Mississippi ou l'Alabama, le BT coton a marché beaucoup moins bien ou même plutôt mal. Le problème de ces techniques, si vous voulez, c'est qu'en général... instantanément, très souvent, elles ont un effet euphorisant, je dirais, sur les paysans. C'est qu'en effet...
Sur les paysans ou sur le coton?
Sur les deux. Ce sont des drogues dures. Disons-le carrément, c'est peut-être une expression que d'aucuns trouveront forcée. Mais tous ces produits, les pesticides, les insecticides, les herbicides et les engrais minéraux, ce sont des produits qui, lorsque l'agriculteur les utilise le plus souvent la première fois, marchent. Mmh. Exactement comme la première fois que un drogué essaye, un futur drogué essaye l'héroïne, ça marche, il est euphorique. Bon. Et au fur et à mesure que le temps passe, bien entendu, ça marche de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'il faut accroître les doses. Exactement, vous voyez, la comparaison se poursuit. Et un jour, ça ne marche plus du tout. Et donc, à ce moment-là, il faut changer de drogue. Donc là, on est dans la phase, et ça a été montré récemment par Charles Benbrook dans le cas américain, où après un léger déclin de l'utilisation de pesticides, du fait des l'utilisation de cultures transgéniques tolérantes aux insecticides, des plantes résistantes aux insectes, et des plantes tolérantes aux herbicides. Donc, de ce fait-là, il y a eu une légère, en effet, diminution de l'utilisation de pesticides aux États-Unis. Mais, de nouveau, depuis 2 ans maintenant, le train est de nouveau, la tendance est à l'accroissement des quantités, tout simplement, parce qu'il y a un effet de cycle. Un pesticide marche au début, il marche très bien, il remplace d'autres pesticides en quantité bien moindre. Tout le monde dit que c'est absolument formidable. Et puis, les insectes deviennent de plus en plus résistant à cet insecticide, il faut accroître les doses, et un jour viendra où nécessairement, ce pesticide ne fonctionnera plus.
Donc dans quelques années, mettons quelques, restons flous,
oui.
Nos amis paysans dans ces plantations du Gujarat, il va leur arriver quoi?
Eh ben, ils vont être obligés soit d'utiliser en complément du pesticide, entre guillemets, biologique qu'on a mis dans le coton, ils vont être obligés d'utiliser des pesticides chimiques, ou bien de changer de construction génétique. Et ils seront complètement prisonniers des firmes multinationales, parce que n'oublions jamais qu'à l'heure actuelle, les firmes transnationales contrôlent le marché des semences. 5 firmes dans le monde contrôlent pratiquement 100% des cultures transgéniques.
Ce qui n'était pas le cas en Inde jusqu'à ces
une vingtaine d'années.
Il y a une vingtaine d'années.
Oui. Donc ces firmes ont pris le contrôle. On a ce qui me semble tout à fait étonnant, si vous voulez, dans l'inconscience politique qu'il y a aussi bien à la Commission européenne que dans les organisations internationales, c'est qu'au nom de la liberté des marchés, on laisse, disons, les pires ennemis de la vie, qui sont les fabricants de pesticides, s'emparer de la vie.
Alors, quels sont les risques pour l'environnement?
2-3 are the major possibilities. The very first thing is there are all chances, and it is happening globally, that the larva against which the GM technology is working is going to develop resistance against the BT toxin.
Il y a plusieurs effets, il y a 2-3 effets, mais le principal, et c'est ce qu'on est en train d'observer dans le monde entier, partout ça est utilisé, c'est que les larves contre lesquelles ce coton transgénique est fait commencent à développer des résistances aux toxines justement qui sont mises dans le coton.
The second risk is in India, the cotton seed is an edible product. Cotton seed oil is very widely used for edible purpose. Cotton cake and seeds are used to feed the animals.
Deuxièmement, c'est qu'en Inde, on utilise l'huile de coton à des fins alimentaires. C'est très très fréquent et c'est aussi utilisé pour nourrir les animaux.
Et alors, quel risque pour la santé?
This is there is no important research and valid research carried out what is the effect of GM cotton seed on Indians.
D'autant qu'il n'y a eu aucune recherche scientifique valable qui n'ait été faite sur les effets possibles du coton transgénique sur la santé des Indiens.
We know what has happened through mad cow disease in Europe, and yesterday in USA, a case of mad cow was observed.
On sait tous ce qui s'est passé avec la maladie de la vache folle en Europe. Et hier encore, il y a eu pour la première fois un cas de vache folle qui a été décelé aux États-Unis.
See, mad cow has proved that foreign protein can make havoc in human being after plenty of years, even after 5 years, maybe after 10 years. So what will happen in the future is unknown.
La maladie de la vache folle, par exemple, ça a prouvé que des protéines étrangères pouvaient avoir des conséquences sur la santé humaine après 5 ans, après 10 ans. Et alors, pour ce qui est du coton, on n'a aucune idée de ce qui peut nous arriver.
Mais il y a d'autres prophètes of doom, des prophètes de malheur. Par exemple, le professeur Nanjun Daswani du Karnataka, qui s'inquiète de ce qui se passe dans sa région, où 400 fermiers se sont donné la mort, se sont suicidés, des gens qui cultivaient le coton. Une partie d'entre eux se sont suicidés en avalant, c'est épouvantable, des pesticides parce qu'ils s'étaient endetté, une filiale de Monsanto leur a vendu des produits qui étaient des bricolages tout à fait inefficaces, qui n'ont pas donné les résultats attendus. Pour essayer d'obtenir des résultats, ces paysans ont utilisé des pesticides en masse et ils ont dû s'endetter pour acheter ces pesticides, et ne pouvant rembourser leurs dettes, ils se sont suicidés. Et le même professeur Nanjun Daswami met en on nous met en garde contre les effets des OGM, des tests qui sont évidemment contestés. Mais enfin, certains tests ont montré que sur des souris nourries de pommes de terre transgéniques, la croissance générale d'un être humain peut être affectée, enfin si on s'en tient à ces comparaisons, peut être affectée par des effets neurotoxiques, perturbateurs, endocriniens, pro-cancérigènes et empoisonneurs métaboliques des polluants environnementaux. Donc voilà, ça veut dire que on sait pas très bien où on va, mais on y va, c'est le miracle indien. Il y a aussi un grand problème avec les OGM, c'est qu'on ne peut pas isoler une expérience OGM, ou pas seulement une expérience, mais une plantation. Je peux pas dire, moi j'ai mon champ, bon, moi c'est mon affaire, je fais mon maïs ou mon coton, je ne sais quoi, OGM, vous voulez faire bio à côté, c'est votre problème. Hmm? Ça c'est impossible.
Hmm? Oui, c'est, si vous voulez, on entre...
Il y a une pollinisation, il y a une contamination qu'on ne peut pas contrôler.
Exactement, c'est-à-dire que là on est face, si vous voulez, à une autre caractéristique, on peut dire, de technosciences modernes, c'est le fait que ça ne se passe plus du tout à l'échelle du laboratoire. C'est la planète entière qui devient un champ d'expérience. Et nous sommes les cobayes, évidemment, derrière. C'est ça qu'il faut voir.
Alors, et les effets des OGM sur la santé et sur l'environnement?
Oui, bien sûr. Alors, il y a toute une série d'affaires qui sont en général ignorées, ne serait-ce que l'affaire avec Showa & Co., une entreprise qui avait fabriqué du tryptophane par recombinaison génétique et qui a provoqué l'apparition de nouvelles maladies qu'on appelait le syndrome de la myalgie éosinophile aux États-Unis. 15 morts.
Il y a une série de mots, là, j'ai rien compris.
Non, mais c'est une nouvelle maladie. Bon, disons pas son nom. Et cette maladie a provoqué 1500 invalidités, une cinquantaine de morts. Donc, tout ça, c'est pour dire, si vous voulez, à quel point notre méconnaissance du monde vivant est grande. Hein. Là, on fait des bricolages, on se contente de s'assurer qu'on ne peut pas démontrer qu'ils sont nocifs. Voilà.
En quoi est-ce que la globalisation va mettre en ruine l'agriculture indienne?
It's Indian culture and society has remained, and since traditions, the ownership of natural resources by community, not by a single company.
La culture et la société rurale indienne s'est maintenue et s'est perpétuée avec l'idée que les graines et les semences appartiennent à tout le monde et pas à une seule transnationale.
Et c'est là que vous voyez la ruine de cette agriculture, par la privatisation et la monopolisation des semences.
Yeah, definitely. And also, globalization is opening an avenue of unfair competition.
Oui, parce que la globalisation est en train d'établir une compétition complètement disproportionnée entre les petits paysans et les grandes multinationales.
And where the winners are fixed and winners fix the rules of the game.
Où c'est les vainqueurs qui sont toujours les mêmes et où c'est les vainqueurs qui fixent les règles du jeu.
Alors c'est quelque chose de terrible parce que il y a 700 millions de ruraux. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces populations?
It's really a picture, if you imagine, it's in havoc.
Because si vous imaginez cette image, c'est un film d'horreur.
We see people uprooting from the traditional age-old profession of farming.
On voit déjà des gens qui sont en train d'abandonner la tradition de la culture.
And globalization is unfair for the small and middle industries in the cities also, where they have no chance to have an alternative employment.
D'autant que la même globalisation est tout aussi inégale pour les petites et les moyennes entreprises dans les villes, où ils auront tout aussi peu de chances de trouver un nouvel emploi.
Alors, est-ce qu'on a conscience de ça dans votre pays?
I would say people see the effects of globalization.
Les gens voient les effets de la globalisation, ça c'est certain.
But they do not relate it with the whole process and its roots.
Et mais ils ne voient pas non plus tout ce qui est en jeu derrière cette globalisation, et ils ne voient pas surtout ses racines, son moteur.
And secondly, there is no any political willpower.
D'autant qu'il n'y a aucune volonté politique
to convince people about the real root cause of the globalization.
Pour pouvoir attirer l'attention des gens sur les réelles causes de la globalisation.
Rather, the political will is very much for their power, party politics, and mesmerizing people.
Oui, d'autant que les politiciens indiens sont beaucoup plus préoccupés par leur lutte de pouvoir politicienne et surtout par hypnotiser les gens sur des questions comme des questions religieuses.
Like issues like religion, caste and divide and rule is the going on here and there by Indian politicians.
C'est des questions religieuses ou de caste qui divisent la société indienne.
On en parlera la semaine prochaine de ces affaires de religion, l'hindoutois, ce nationalisme qui sert, alors qui domine complètement la ville de Bombay. Enfin, les élus de Bombay se réfèrent complètement à cette optique, à cette idéologie qui est assez préoccupante. Et on verra comment ça se passe aussi au Gujarat. Pour l'instant, on reste sur ce thème de l'agriculture, des OGM en Inde et comment les firmes agrochimiques prennent le contrôle du secteur agroalimentaire indien. En clair, quand le président des États-Unis dit mais vous, les gens comme vous, les écolos, ceux qui s'opposent à ce progrès formidable, empêchent le tiers-monde de se développer, de se nourrir, qu'est-ce que vous répondez ?
Il faut voir une chose, c'est que l'administration américaine, plusieurs très hauts responsables de cette administration américaine sont d'anciens de Monsanto. Il y a une infiltration, littéralement, une défense des intérêts de Monsanto par le gouvernement américain, qui ne date pas d'ailleurs de l'administration Bush, hein, qui était auparavant, avec l'administration Clinton, tout aussi énergique. Les États-Unis voient dans les cultures transgéniques le moyen de, disons, réaffirmer leur suprématie mondiale et d'imposer au monde entier de verser, en quelque sorte, des redevances sur, entre parenthèses, les ressources génétiques que les États-Unis ont pillées dans le monde entier. On ne devrait même pas discuter des droits de propriété intellectuelle ou du brevet sur le vivant, hein, qui va permettre aux pays industriels de verrouiller complètement l'accès à quelque chose qui est un bien commun de l'humanité. Le recours aux OGM, les OGM sont c'est une négation, je dirais, des savoirs traditionnels sur lesquels on pourrait vraiment bâtir et reconstruire ou aider à fortifier, si vous voulez, des rapports ruraux plus satisfaisants. Parce que si les gens quittent la campagne, c'est qu'aussi les rapports ruraux sont des rapports souvent d'exploitation. Il y a des agriculteurs riches, des agriculteurs pauvres, il y a des paysans sans terre, si vous voulez, il y a des relations sociales aussi extrêmement dures à la campagne. Donc, ce qu'il faut envisager, c'est que aussi donc le monde de la campagne lui-même devrait mériter sans doute des réformes agraires très très sérieuses. Sans aller en Inde, on voit bien au Brésil où vous avez des latifondières qui détiennent des quantités absolument massives de terres, et alors que vous avez des millions de paysans sans terre qui demanderaient qu'une chose, c'est un des rares pays au monde où il pourrait y avoir une migration des villes vers les campagnes au Brésil. Donc il y a ce problème des rapports entre villes et campagnes dans les pays extrêmement peuplés que sont la Chine et l'Inde, et d'une manière générale toute l'Asie, est un problème. Si la migration vers les villes se poursuit, c'est un problème qui va devenir absolument explosif. Or, je pense que, si vous voulez, notre mode de fonctionnement agricole est très précisément dans ce modèle où il s'agit d'accroître le profit et le PIB tout en diminuant, en fait, le bien-être des populations.
Alors que, aussi bien le producteur que le consommateur.
Aussi bien le producteur que le consommateur. Et ce pourquoi je plaide, mais évidemment c'est totalement contradictoire avec la règle fondamentale du jeu de notre société qui est la croissance des profits du PIB, etc. Puisque moi je plaide pour la gratuité, faire gratuitement par la nature ce que nous faisons faire à coût croissant, comme je le disais tout à l'heure, exponentiellement croissant. Donc, on est dans le cadre donc de la réflexion à propos de l'avenir agricole du monde, on est dans le cadre de quelque chose, d'une opposition frontale, hein, entre deux logiques, la logique capitaliste, l'accumulation sans fin, de la crématistique d'Aristote, hein, de quelque chose qui est absolument illimité et qui conduit inévitablement à la catastrophe, et puis une logique de la gratuité et du bien-être.
Et ça, c'est le choix que nous ferons.
Exactement.
Vous avez compris ? Il faut choisir votre camp. Et c'est ce qui est en train de se débattre actuellement, donc, à Bombay. Mais là, on était à Paris, hein, avec Jean-Pierre Bernand. On retourne en Inde pour finir cette émission. Et ces éclairages au Gujarat avec Kapil Shah.
We have seen there are hundreds of farmers in Gujarat which do not use any green revolution chemical-based technology.
Il y a des centaines de fermiers dans le Gujarat qui n'utilisent aucune des pesticides et des engrais de la révolution verte.
But they grow organic cotton. since ages.
Et qui cultive, par exemple, du coton naturel, biologique, depuis des siècles.
Why don't we promote this technology, give them more and more chances to flourish?
Pourquoi on ne promeut pas ces technologies-là? Pourquoi on ne leur donne pas plus de chances de s'épanouir?
Rather than making them more and more dependent to multinational companies.
Plutôt que de les rendre de plus en plus dépendantes des compagnies transnationales.
Est-ce que cette culture biologique produit autant, à la même productivité que l'agriculture sous pesticides, sous herbicides, sous...
If you see on sustainable basis, that is more productive.
Sur une base d'un développement durable, c'est certainement plus productif.
Productivity should not be the only criteria. The criteria should be the profitability of the whole farming profession.
La productivité ne devrait pas être le seul critère. Ça devrait être aussi que ça profite à tout le système agricole à long terme.
So organic farming is much more profitable rather than much more productive.
La culture biologique est beaucoup plus profitable que productive.
Vous allez être présent au Forum social mondial?
Non.
Pourquoi non?
There is no any specific reason. In fact, we are in a process to organize an organic food festival in my town and I am the fourth person for the whole event.
Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'on organise, nous, ici, dans notre ville, un festival de culture biologique. Et c'est moi qui vais diriger tout ça.
And I would like to work for local people at local level rather than working and sparing time for global solidarity. Of course, it's a good...
Je préfère travailler localement pour aider les gens localement plutôt que de perdre du temps à discuter sur des questions globales, même si c'est vrai.
Yeah, of course, it's a very good gathering and I appreciate, but sparing time... And priority is not possible for me.
Bien sûr que c'est bien que de tels débats aient lieu, que de tels échanges aient lieu, mais c'est aussi du temps à perdre et on ne peut pas se le permettre.
Ok.
Thank you. Thank you.
Merci, merci à Madou et Gita qui travaillent dans le champ de coton, à Parbougetta et ses beaux cheveux blancs, à Sonal Roy du syndicat New Trade Union Initiative, à Kapilcha, qu'on vient d'entendre, de l'association Jatan, à Baroda, et à Jean-Pierre Berland, chercheur à l'INRA. Je rappelle le titre de l'ouvrage qu'il a dirigé, et passionnant, La guerre aux vivants, OGM, mystification scientifique aux éditions Agone. Traduction Prit Pandia, notre ami d'Ahmedabad. Montage Yann Chouquet. Reportage Guy Vanctil, technique aujourd'hui Patrick Henry et Clément Léotard. Le répondeur c'est toujours Christophe Imbert. La musique c'est toujours Koye Nguyen et c'est pas seulement ça. Le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je vous rappelle le mail de là-bas si j'y suis. C'est daniel.mermet@radiofrance.com. La semaine prochaine, lundi, on continue le voyage et la balade en Inde. On ira à Ahmedabad, toujours au Gujarat, et on traitera des histoires de communalisme, des histoires de caste, domaine dans lequel on a pas mal de difficultés à piger avec nos approches et notre culture. Bonne fin de semaine à tous. À lundi donc, 17h pour la base, j'y suis toujours en Inde. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.